Bonjour, bienvenue dans Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Marie-Annick Bello et Lionel Quentin vous proposent le portrait de la réalisatrice Solveig Anspach. Solveig Anspach est née le 8 décembre 1960 en Islande et nous quitte le 7 août 2015 dans la Drôme. Le 27 décembre 2017, Nathalie Drey écrivait dans Libération « Le cinéma de Solveig Anspach pourrait s'apparenter tout entier au tricot, un mélange de composition et d'improvisation, saisir un fil et dérouler la pelote, juste pour voir entremailler les récits à dormir debout, les circonvolutions de funambules entre la folie douce et le drame qui vous tombe dessus, comme dans un cancer dans Haut les cœurs ou un deuil dans Queen of Montreuil. Montreuil, où elle avait élu domicile et dont elle aura fait sa Babel heureuse. Solveig Anspach, fabriquant avec ses acteurs une famille d'adoption, aura filmé comme on tisse des liens, comment se confectionne une couverture pour se protéger du froid.
Solveig Anspach, place de la fraternité. L'île de Vestmannaeyjar, en Islande, n'a ni geyser, ni fjord, rien de ce qui fait la renommée des paysages islandais. Les éruptions volcaniques peuvent recouvrir les maisons sur ses flancs. Les cendres ne se sont pas encore refroidies, que déjà les pêcheurs qui vivent là les déblaient et reconstruisent. Solveig Anspach, qui a grandi en France, est née là.
J'ai écrit une belle femme, pleine d'énergie, originale, vraiment originale.
Mireia Samper.
Très à l'aise, un peu genre islandaise, et libre, mais en même temps avec l'éducation française, qui fait qu'il a formé, parce qu'elle est quand même élevée ici, mais elle a le sang islandais, elle a vraiment la nature islandaise. Et c'est l'opposé un peu. Parce que les Islandais, dans leur nature, ils n'ont pas trop de règles, pas trop de contraintes, ils se croient capables de tout faire, et tout ça. Et pourtant, le français, c'est plus cadré, c'est plus plein de règles, politesse, manière, tout ça, d'être ou pas être. Donc elle était le mélange de ces deux-là, et ça, c'était très intéressant. Alors, moi, c'est ma propre théorie, c'est que les Islandais, ils sont extrêmement libres dans l'esprit et dans leur nature pour deux raisons. C'est que jusqu'à maintenant, on est élevé hyper librement. On n'a jamais peur. Et on est très proche de la nature. Ça, c'est un truc qui est vraiment différent de Europe continentale. Et ça, je crois, c'est un effet des îles, souvent, aussi. Les gens sont très proches de leur nature parce qu'on sent que la nature est vivante. Et on n'est rien, nous. Tout est vivant autour de nous. Même les pierres sont vivantes. Donc et nous, on est conscients. On est vraiment conscients. La deuxième chose, pourquoi les Islandais sont si libres d'esprit et libres dans leur vie, quelque part, c'est que chacun se croit, entre guillemets, roi. Et, au-delà de la loi presque, capable de tout faire ce qu'on veut. Jamais peur. Et ce côté roi, je crois que ça vient avec les Vikings, parce que les Vikings qui sont venus en Islande s'installer, c'est des gens qui acceptaient pas la loi et les règles en Norvège et voulaient leur propre manière. Donc ils partaient, ils trouvaient une île où il n'y avait personne, ils se plaçaient là-bas, ils faisaient le roi. Et nous, on descendait de ça. Donc l'esprit, moi je crois que c'est ça. Mais c'est ma propre théorie, ce n'est rien qui a été prouvé, ni théorie, il n'y a pas de théorie là-dessus.
Solveig Anspach grandit à Paris avec sa sœur Thorun. Leur mère, Högna Sigurðardóttir, est la première femme architecte islandaise. Elle est venue en France pour faire ses études d'architecte aux Beaux-Arts. Elle y rencontre leur père, un GI juif new-yorkais né à Berlin, qui étudie la peinture, après avoir débarqué en Normandie le D-Day.
Alors, il y a eu plusieurs endroits, mais peut-être que le plus marquant, c'était la rue de la Colonie, donc où on a vécu jusqu'à la séparation de mes parents. Donc,
Thorin Ansbach.
Solveig devait avoir 10 ans et moi 7 ans. Et en fait, c'était les trois derniers étages d'une petite maison particulière. Et maman l'avait bien sûr arrangée totalement à son goût. Donc, il y avait des estrades, il y avait des mezzanines. Et nous, en fait, avec Solveig et une fille au père, qui différait chaque année, on vivait au grenier. Et donc, ça s'appelait le zoo, parce qu'on avait beaucoup d'animaux. Donc, on avait une volière avec une trentaine d'oiseaux. On avait un hérisson, des hamsters, des lapins. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait un hara, Laurent le Magnifique. Et donc, c'était vraiment notre monde là-haut. Et puis, c'était un monde très imaginaire aussi parce que l'école apportait ça par ailleurs. Donc, à la fois, on avait ce monde dans cette maison avec maman qui était un peu la seconde ambassade de l'Islande. Donc, il y avait tout le temps des Islandais à la maison. Papa qui lui décorait l'endroit à sa façon puisqu'il était antiquaire, donc il y avait des objets absolument extraordinaires, mais qui arrivaient un jour et pouvaient repartir le jour d'après, ce que maman trouvait toujours très difficile. Et puis, il y avait ce que maman apportait qui était assez différent, donc un clash de genre, mais qui faisait du lieu un endroit très charmant et très différent et très chaleureux. Et il y avait souvent des dîners et des fêtes. Et donc, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marquée.
Við vorum ekki augasteinar foreldra okkar.
Nous n'étions pas les prunelles de nos parents.
Ekki fremstar í goggunaröð gæða barna.
Pas les premières dans l'ordre des enfants modèles.
Ekki fallegar heldur frakkar.
Pas belles, mais effrontées.
Og gengu með sprengjur á öxlunum og áttum að finna framtíðina.
Et avons marché avec des bombes sur les épaules et devions trouver le futur.
Mon père, lui, il était très fantasque, c'était vraiment un personnage, un caractère, et aussi avec son accent très fort, et parce que lui, son problème principal, donc, c'était qu'il était un homme à femme, un coureur de jupons, un peu, et donc assez vite, maman en a eu marre, et donc ils se sont séparés, mais c'est vrai que je crois qu'ils s'admiraient quand même beaucoup l'un l'autre, et... Mais par contre, je trouve quand même qu'il a été bien parce que deux fois par semaine, on allait chez lui et on dormait chez lui. Alors, c'était pas évident et Solveig était un peu énervée parce qu'on dormait sur des matelas pneumatiques parce qu'il habitait chez une fiancée, en fait. Et donc, on dormait dans la salle à manger. Il y avait juste une chambre et une salle à manger et on dormait sur ces matelas pneumatiques. Et le pire, c'est qu'il avait deux fenêtres et toute la nuit, les fenêtres grattaient sur la porte parce qu'ils vivent la nuit. Et donc Solveig, elle était tellement énervée, elle disait, mais c'est plus possible, il faut qu'on lui dise qu'on veut plus y aller et tout. Et puis, bon, en fait, on continuait d'y aller jusqu'à ce qu'on n'y aille plus. En fait, elle disait souvent que papa n'était pas très tendre. Qu'il n'était pas le père qui vous prend dans ses bras, etc. Même si, à mon avis, à l'époque, ça se faisait moins, mais enfin, ça devait exister. Et un jour, il lui a dit, Solveig Min, viens sur mes genoux, etc. Et elle était tellement contente et tout ça. Et elle va sur ses genoux et puis elle entend tac. Et elle se retourne. Et en fait, il lui avait coupé une petite mèche de cheveux pour coller sur une poupée du 19e qu'il avait achetée. Et donc, elle était tellement fâchée, et je crois que 10 fois par an, elle reparlait de cette histoire en lui disant « Comment t'as pu faire ça? C'est vraiment insensé, etc. » Donc ça, c'était typique leur querelle, quoi. Mais quand même, ils nous voyaient 2 fois par semaine, ils nous donnaient de l'argent de poche, ils nous emmenaient au cinéma. Donc ça, ils y tenaient beaucoup, 2 fois par semaine. Quoi qu'il arrive, on allait au cinéma. Et parfois, on voyait 2 films d'affilée. Et très souvent à la cinémathèque. Et il nous emmenait voir les mêmes films qu'il considérait être des chefs-d'œuvre chaque année, en prime, en plus. Et quand on était petite, enfin moi surtout, je trouvais ça un peu dur. Surtout quand les films duraient 3-4 heures, comme Les Enfants du Paradis. Alors je passais mon temps aux toilettes, je me baladais dans la salle, je disais que j'avais mal au ventre, j'arrivais pas à tenir aussi longtemps. Mais en même temps, ça nous a marqués.
Comme titre, vous aviez proposé pour ce documentaire Place de la Fraternité.
Oui, oui. Bah parce que d'abord, la place qui est derrière s'appelle Place de la Fraternité.
Jean-Luc Cagé, scénariste.
La deuxième scène de Queen of Montreuil, c'est Florence qui rentre par la Place de la Fraternité. Et je pense que c'est le credo de Solveig, c'est de trouver la Place de la Fraternité. Donc elle l'avait trouvée parce qu'elle y habitait, mais c'était de la trouver dans chaque relation avec les gens qui l'entouraient, les gens qu'elle croisait. Donc, c'est place en tant que lieu et place en tant que partie d'une personne. Il faut trouver la place de la fraternité dans toute relation si on veut que ça passe. Et je pense que ça lui va bien. Voilà, ça lui va bien, la fraternité. Si jamais vous voyez ou vous avez vu ses premiers documentaires, notamment le documentaire qu'elle a fait... à la Fémis, sur l'histoire du boucher qui se fait assassiner par sa copine parce qu'il veut le quitter. Et en fait, elle est allée interviewer la jeune femme qui avait assassiné son copain en prison. Et après, elle a fait redire le texte à une comédienne. Et après, voilà. Donc là, c'est franchement un projet extrêmement élaboré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un vrai documentaire parce que, en plus, au début, je crois qu'elle voulait servir de la vraie voix, mais ça avait été enregistré dans de mauvaises conditions. Donc, elle a fait redire le texte et elle est allée filmer des bouchers dans une boucherie ou je sais plus où c'était, dans un abattoir. Et tout d'un coup, il se passait un truc fort entre ce récit de cette jeune femme qui, pris de folie, d'un énorme chagrin d'amour, tue son amoureux qui est bouché. Et voilà. C'est-à-dire qu'elle a pris plusieurs pans de réalité et qu'elle a mis ensemble. Et tout d'un coup, à la fin, on a un film qui est un film de fiction, moi, je trouve. C'est plus qu'un film documentaire, ce film, quoi. Donc après, elle a continué. Donc elle avait une vraie propension à trouver les personnages, quoi.
Sarajevo, Paroles de Casque Bleu, 1995.
Mi smo tvrd orah za ovo sve bili. Mi ćemo to izdržat bez obzira da li trajalo još godinu, još dvije. Ovaj narod će izdržat. Odbranit će Bosnu, svoju djecu, svoju postojbinu.
Sarajevo, on est arrivé, c'était un film de commande. L'idée, c'était de faire un film sur la parole des casques bleus.
Isabelle Rassavé, chef opératrice.
Et on s'est retrouvés face à des gens qui ne pouvaient pas parler. Donc on essayait d'aller monter sur le front, aller voir les casques bleus. Et en fait, on était reçus par des commandants. Alors, on a été d'abord chez les Égyptiens, qui nous ont accueillis avec des pâtisseries, du thé, tout ça. Et ça durait. Et nous, on voyait les heures tourner. Et on disait, bon, bah, ça serait quand même bien de nous emmener là-haut, là. Et pas moyen. Après, on a été chez les Ukrainiens. Alors, eux, ils nous ont attaqués avec la vodka, la guitare des grandes sérénades. Et pareil, on a vu leur tournée et pas moyen d'y aller. Après, il y a eu les Français qui ont eu un mode beaucoup plus moins drôle, quoi, beaucoup plus raide. Mais voilà. Mais du coup, on a passé du temps avec ces commandants et finalement, on a réussi tant bien que mal à atteindre quelques casques bleus, mais on s'est retrouvé dans une situation, je crois d'ailleurs qu'il en reste une fois dans le film, avec un interprète. Donc Solveig pose une question, et enfin elle traduit carrément autre chose que ce qu'ils disent. Et donc Solveig très vite s'est dit, bon ben en fait ils peuvent pas rien dire, donc passons à autre chose, quoi, essayons de rencontrer les êtres. Et donc elle leur a
Elle a fait un pas de côté et elle leur a parlé de l'amour. Et puis, Solveig, elle aimait enfin, vraiment les gens et elle était curieuse d'eux. Et on leur a proposé un petit jeu. Donc, c'était de faire comme des photomatons en regardant la caméra et en pensant à quelque chose qui les réjouissait très profondément. Et comme Solveig et moi, on était persuadés que en documentaire comme en fiction, il s'agit d'un échange et que la personne qu'on filme propose une image d'elle qu'elle a envie de donner et que le réalisateur propose aussi une image et que c'est entre les deux que ça se passe. L'idée avec Solveig, c'était toujours que ça soit dans le partage, dans l'échange et jamais quelque chose de volé. Donc, cette aventure a été extrêmement fondatrice dans notre relation. Parce que paradoxalement, on se retrouvait dans un endroit en guerre où il se passait des choses atroces, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à cette énergie si particulière qu'il y a dans les endroits en guerre. Et on se disait toujours avec Solveig, on voyait les femmes sortir avant le couvre-feu, extrêmement maquillées, extrêmement belles, extrêmement dignes, avec le peu qu'elles avaient, c'est-à-dire trois fois rien. Et nous, on avait un fond de baignoire pour nous quatre, pour trois jours pour se laver, mais on était absolument épatés de cette capacité à résister et à tenir la tête haute. Et donc tout le monde s'inquiétait ici parce qu'on est resté coincé. Solveig attendait Clara, son sein commençait à devenir noir. Et en même temps, nous, on était en train de vivre quelque chose d'absolument... on avait l'impression d'être au cœur de quelque chose d'essentiel. Je crois que Solveig, elle avait envie de montrer justement comment les gens résistaient, tenaient la tête haute et continuaient à vivre et à s'aimer. Et voilà, ce qui est complètement décalé. Mais voilà, quand on est arrivé à Sarajevo, on était logé à l'Holiday Inn et la Sniper Avenue était complètement recouverte de neige et totalement vide. Et il y avait une ambiance absolument incroyable. L'Holiday Inn était complètement troué de mitraillettes. Et donc, il fallait qu'on filme. Donc on est allé se mettre au milieu de Sniper Alley de manière absolument, totalement insouciante. Et on s'est installé avec le pied. Solveig avait amené sa Super 8. Moi, j'étais avec la grosse caméra. Et j'ai commencé à faire des plans, poser. Voilà. Et puis, quand on est rentré, ça n'a pas raté. En fait, à partir d'une certaine heure, quand ils avaient bu assez d'alcool, ils commençaient à tirer de part et d'autre de Sniper Alley. Et en fait, ils nous avaient repérés. Donc, de chaque camp, ils sont venus nous voir et nous ont demandé les cassettes. Et donc, voilà. Pour nous, c'était absolument impossible. Ils étaient persuadés qu'on avait repéré avec notre zoom où ils étaient planqués et que ça allait servir. Voilà. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu que, et bien d'autres fois, qu'on avait une vraie chance d'être des femmes. Parce que si on avait été des hommes, ils étaient là avec leurs armes et ils rigolaient pas du tout. Et ça aurait très très mal fini. Et là, en fait, on leur a expliqué ce qu'on faisait et on est rentré dans un vrai rapport, quoi, et on les a convaincus. Et moi, je leur ai expliqué que c'était très grave, que j'allais perdre mon travail si je ramenais pas le nombre de cassettes que j'avais amenées et que c'était essentiel de montrer cette sniper aller comme ça Et quelque part, on a réussi à les faire fondre.
Dans le studio 108 de la Maison de la Radio, on retrouve avec Isabelle Rassavé une partie de la tribu de Solveig Anspach. Éric Poitot, ingénieur du son, Marie Le Carec, costumière et décoratrice, Anne Riegel, monteuse, Martin Wheeler, compositeur, Anne Morin, réalisatrice.
Ça me fait penser à Où est la peur de rien, par exemple. C'est sur son île, à Vestmannaeyjar, là. En 2003, quand on est monté là-haut, et il faisait... Ouais, t'étais pas là.
À Vestmannaeyjar.
Ouais.
Sur le
mont, là-haut.
Ouais, sur le volcan.
Il faisait un vent de malade mental, quoi. Elle a emmené tout le monde là-haut. À un moment, moi, j'ai même hurlé. J'ai dit, c'est pas possible, on va pas travailler, c'est pas possible. Enfin, c'était...
Le chef op, il voulait pas y aller non plus. C'était un peu... Elodie, elle s'envolait. Il a fallu que ce soit le comédien islandais qui la tienne. Mais carrément,
sol,
mais elle s'envolait physiquement, en fait. En vrai, c'est hyper bizarre. Après, il fallait attendre que le jour se lève. Donc, on a creusé dans le volcan pour faire comme des niches. J'avais tout le monde dans la niche et tout. Non, c'était un truc.
Ouais,
c'était assez drôle, en fait.
Elle aurait pas lâché, de toute façon.
Ouais, et il y avait tout le village aussi avec elle. Parce que là-haut, l'idée, c'est qu'une fois qu'on était là-haut, tout d'un coup, tous les réverbères allaient s'éteindre. Et, enfin, je veux dire, d'accord, Vestmannaeyjar, c'est pas très grand, mais c'est quand même une ville, quoi. Il faut quand même, tout ça parce que Solveig le veut, on éteint tous les réverbères. Oui, bien sûr, ils ont été éteints. Donc, c'est sûr, à partir de là, bien sûr, on allait aller tourner, c'était obligé, quoi. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement. Non, c'est sûr.
Moi, je me souviens que quand elle t'a rencontré sur Sandrine,
ouais.
Ta première collaboration, c'est
ouais.
Là. Et ben, pendant qu'on montait, elle m'a dit « je vais travailler avec un musicien qui sait transformer les sons de train bodoboum, 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 en musique ». C'est comme ça qu'elle m'a...
Pour elle et le tremblement, on a refait une espèce de traficage de fausse métro, etc. Donc, non.
Et ça vous ennuie pas de nous raconter l'histoire de Anne et les tremblements ?
Pas du tout, puisque c'est un film. Eh bien, j'habitais dans un appartement à Paris, au sixième étage, au dernier sixième étage, qui tremblait au passage des métros. Et ça me gênait beaucoup. Et j'en étais obsédée. Et je faisais toutes sortes de choses pour essayer d'atténuer ces tremblements. Et j'écrivais beaucoup à la RATP. Et à force d'écrire à la RATP, on m'a dirigée vers le service bruit et vibration. Et donc là, j'ai écrit au service bruit et vibration. Et là, j'ai commencé une correspondance avec le... Enfin, j'ai commencé une correspondance, on ne s'écrivait pas toutes les semaines non plus, mais donc j'ai écrit là pour dire, écoutez, c'est vraiment insupportable les bruits du métro dans mon appartement, il faut que vous veniez pour les constater, et je vous propose de venir passer une nuit, parce que c'est la nuit que c'est le pire. Et moi, je partirai. Donc j'avais proposé ça, et j'avais raconté ça à Solveig, comme je racontais les choses de ma vie. Et elle trouvait ça étonnant que je puisse avoir cette correspondance avec ce monsieur bruit-vibration et surtout que je lui propose de venir dormir chez moi. Alors que, voilà, encore une fois, moi, ça me paraissait ce qu'il fallait faire. Parce que c'était quand on était dans le lit que c'était gênant, quoi. Et après, le monsieur m'a répondu et le monsieur a accepté de venir à la maison, mais pas la nuit. Il est venu pour le café. Et donc, il y a eu toute une discussion avec ce monsieur autour des daram-daram, le bruit que fait le métro. Et donc, je raconte tout ça à Solveig, qui voit là une histoire à raconter.
Et qui a très envie de te filmer.
Voilà.
Parce que tu es une amie chère à voilà. son cœur.
Enfin, je dis voilà, mais en fait, je ne me le disais pas comme ça avant.
Et donc, elle fait de toi une actrice de
voilà.
ta vie.
C'est ça. D'ailleurs, je n'ai joué dans des films que avec Solveig. Et je ne tiens pas à jouer en général. Alors, donc, elle a écrit, le film a été financé. Et voilà que dans mon appartement du 10e arrondissement arrive... non, t'étais pas là, toi, hein, non. Mais en tout cas, Marie et Isabelle... Marie au costume et décor et Isabelle à la caméra. Et que mon appartement devient plateau de cinéma. Et que je deviens donc actrice dans mes habits.
Une partie, ouais.
Dans mon lit, avec mon mec... Enfin, que tout ça prend, ça devient une histoire incroyable et extrêmement intense, qui ne dure que 5 jours. Et au bout des 5 jours, il y a eu un vide phénoménal. Mais le 6e, je n'ai plus souffert des tremblements, comme précédemment. Bon, le 6e jour, j'ai constaté ça, mais longtemps après, je me suis rendu compte d'abord du cadeau de Solveig. De me regarder, quoi. Enfin, être, parce que j'ai vu ce que ça faisait aussi d'être actrice. Parce qu'on est vraiment regardé, quoi. C'est quelque chose, quoi. Ça, au niveau de la libido, ça vous porte, quoi. Il y a quand même... Et là, pourtant, c'était une minuscule équipe, mais tout le monde vous regarde, quoi. C'est un truc de dingue. Et là, ça a duré 5 jours. J'imagine ce que c'est dans la vie des acteurs et des actrices d'être regardé comme ça. C'est quelque chose d'incroyable. Enfin, j'ai découvert ce fil, quoi. Ce fil entre les équipes et les comédiens que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Voilà, et donc ce film, je l'aime beaucoup.
Moi aussi.
Moi aussi. Ben, la suite logique de Sarajevo, c'est Oleker. Donc, en rentrant de Sarajevo, Solveig a découvert qu'elle avait un cancer. Donc, cette grande bataille a commencé. Très vite, l'idée de faire un film avec ça est apparue. Comme quelque chose qui était susceptible de la faire tenir. Ce qui pouvait la faire tenir, c'est le fait que Clara existe et naisse, et il y avait un impossible absolu. Ce qu'on lui disait, c'est-à-dire, si vous voulez vivre, il faut enlever votre enfant de vous. Ça, c'était un impossible. Donc la seule chose qui pouvait faire que Solveig vive, c'était de trouver une solution pour que Clara existe et que ce désir d'enfant arrive à aboutissement. Mais il y a un moment aussi, quand il s'agit, de se retrouver en chambre stérile, après la naissance de Clara, et là c'était vraiment très difficile, l'idée que... elle puisse avoir son ordinateur là-bas et qu'elle commence à écrire. Et je crois quelque chose qui l'a beaucoup tenue. Et pour les gens proches d'elle qui l'ont accompagnée comme moi, ce qui était extrêmement impressionnant, comme toujours chez Solveig, c'est cette espèce de ténacité, c'est-à-dire ça ne pouvait pas être autrement. Et elle avait une espèce d'autorité naturelle, mais voilà, Clara naîtrait et elle vivrait. Et il y a une espèce de... Pour moi, Il y avait une espèce de lumière qui émanait de Solveig, mais de manière absolument incroyable. Alors, voilà, une femme enceinte, généralement, s'épanouit, s'ouvre et s'embellit. La situation était violente. Et Solveig, avec son très fine, avec son énorme ventre, sa peau diaphane, presque plus de cheveux puisqu'elle avait décidé, comme dans le film, de les raser, plus de sourcils, avait une lumière qui émanait d'elle absolument incroyable. Et pour moi, c'était un challenge important de faire en sorte que cette beauté, enfin cette irradiation, parce que pour moi c'était vraiment quelque chose de une puissance de lumière, un regard, une manière d'être là absolument extraordinaire.
Clara Lemaire-Hansbach.
La relation qu'on a eue était... Enfin, avec le recul, du coup, je me dis, ah, comment ça se fait que c'était aussi intense. Et du coup, j'en parle beaucoup avec ma psy, tout ça. Et c'est vrai que moi, donc, j'en étais pas vraiment consciente quand j'étais petite, mais ma mère l'était. Et du fait que, quand même, le fait qu'elle m'ait eue... Enfin, déjà qu'elle ait survécu et que j'étais là... Enfin, c'était quand même un miracle. Et elle savait que... Donc, il y avait quand même un peu ce truc dingue, quoi. C'est vrai qu'en tout cas... Enfin, elle est très, très malade et... Enfin, elle savait qu'elle allait mourir, quoi. Mais c'était pas pour autant que... ah bon, je vais mourir, bah alors... je me mets dans mon lit et j'attends que ça arrive, quoi. Enfin, c'était au contraire, je vais mourir. Du coup, bah, ok, bah, faut y aller à fond. Et donc, par exemple, enfin, déjà, bah, ses films, elle était à fond jusqu'au dernier moment. Pour Just the Two of Us, elle a rencontré la comédienne en juillet, alors qu'elle est morte en août. Et les travaux, là, le dernier étage, elle l'a fait, enfin, 2 ans avant qu'elle meure. Enfin, c'est des énormes travaux, enfin, c'est un truc de dingue. Et c'était, justement, c'était... Enfin, elle était pleine de vie, de base, mais je pense qu'elle était plus pleine de vie parce qu'elle allait mourir que parce que c'était sa nature, quoi. Ouais.
Triste. Moi ? Oh, les cœurs.
Absolument pas. Je serais triste. Au contraire, je suis super contente d'aller à l'hôpital. Regarde, je danse comme une folle devant Paris. Ah non, je suis très contente d'aller en chambre stérile. Ça me fait plaisir, plaisir. Je vais être bien là-bas, toute seule. Pendant des semaines.
Non, je te comprends. Ah, tu veux rentrer?
Non. Je voudrais que tu me chantes une chanson.
Dans l'herbe, me suis endormi. Et j'ai fait des rêves assez jolis. J'ai rêvé de toi, pour que tu penses à moi.
C'est très joli.
Ici, il y avait beaucoup de fêtes. Ma mère, elle adorait faire des fêtes, et mon père aussi. Donc, quand ils étaient ensemble, il y avait vraiment tout le temps des fêtes. Et moi, avec mes copines, on adorait. Et à une fête, j'en étais avec une copine, on était dans la chambre là-haut. Et pendant toute la soirée, on découpait des cœurs dans des feuilles roses, et on les lançait comme ça sur les gens. Enfin, on était à fond, quoi.
Pour moi, Solveig, c'est aussi la danse. Le nombre de fois où on a dansé, enfin... C'était de l'énergie, de la danse, quoi. C'était de la vie, c'était... ça pouvait pas se passer sans danse, hein. Mais la danse pas... La danse parce que c'est joyeux, quoi. Moi, depuis que Solveig n'est plus, je ne danse plus beaucoup.
Elle adorait le tournage. Enfin, elle préférait le tournage. Je dis ça. Enfin, on a eu beaucoup de plaisir à faire ensemble, mais je sais qu'elle préférait le tournage. Elle préférait le tournage parce qu'elle adore les acteurs. Elle adore quand ça se passe, quand un truc se passe devant elle. C'est pour ça que le documentaire l'attire, parce que finalement, quand on ouvre les yeux, qu'on se prenne dans la rue, on est tout le temps. Enfin, je veux dire, si on regarde, il se passe tout le temps quelque chose. Très souvent, les metteurs en scène, ils empêchent le chaos parce qu'ils en ont peur. Et puis, ils veulent tout de suite que tout soit réglé, tout soit sur des rails, qu'il y ait un dispositif, etc. Bon, parce qu'en fait, ils ont peur de la vie. Enfin, moi, je pense qu'ils ont peur de la vie. Et moi, je me souviens très souvent qu'en fait, elle aimait bien laisser le chaos s'installer. C'est-à-dire, tout le monde parle en même temps, tout le monde fait des propositions, il y a une espèce... tout dans la bonne humeur, sans vraiment des conflits. Et puis que petit à petit, sans forcément qu'elle dise « toi tu fais ci, toi tu fais là », mais il y a dans son regard, dans sa façon d'être, dans sa façon de rire à une blague, d'écouter quelqu'un, d'écouter une suggestion, elle accueillait. Ouais. C'est quelqu'un qui accueillait les gens, qui accueillait la vie, et donc son cinéma accueillait la vie de la même façon. Quoi. Et donc du coup, moi je l'ai vu plein d'endroits comme ça où c'était le chaos, et moi, si je me mettais à sa place comme metteur en scène, ça m'aurait rendu fou. J'aurais dit, mais taisez-vous, quoi, on est en train de faire... Mais petit à petit, il y avait une espèce de magie, je trouvais, tout doucement, le chaos s'organisait, et puis petit à petit, ben, la scène se mettait à exister, sans pour autant qu'elle ait, voilà, elle ait décidé, un tel fait ci. Elle insufflait de la vie au personnage, et du coup, il se passait quelque chose.
Eh oh. Qu'est-ce que vous faites là? Comment t'es monté, toi?
Le fort caillou.
Vous êtes fort caillou, quoi?
I'm sorry.
Eh, c'est dangereux. Comment t'as fait pour monter?
I came up here to write my poetry. You know, I'm a poet. And for the privacy as well, you know, it's like being in the Eiffel Tower.
Non, c'est pas Eiffel Tower ici. Ici, c'est une grue. C'est mon travail, c'est mon job, là.
Oui?
Ouais, grue.
I'm sorry, it's like, but, you know, look, Eiffel Tower.
C'est pas Eiffel Tower, là-bas.
Non?
Non, là-bas, c'est la tour Montparnasse. Hein?
Non, c'est vrai, pour Queen of Montreuil, c'était vraiment très frappant. On a vraiment fait...
Oui.
C'était à partir du moment où elle a eu la grue... qui était juste la rue en face de chez nous, quand même. Je veux dire, ça, oui. Fallait le faire. Mais c'est pareil, ça, c'est toujours Solveig, quoi. Il y avait, ça se construisait là, il nous fallait une grue, pile, il y avait une grue, pof, on est allé, quoi.
Oui, je me souviens, je rappelle. Je veux dire, on est allé, je crois que c'était là, après, on est allé toutes les trois, et on est allé voir le gars, bon, ben, est-ce qu'on pourrait voilà. Et alors, ce jour-là, le gars a dit bon bah d'accord, là moi je dis bon bah j'aimerais bien monter pour voir comment c'est en haut, où on pourrait mettre la caméra, qu'est-ce qu'on voit d'ici et tout. Et donc le gars a dit ok, donc je suis montée et tout ça, et quand j'étais presque en haut, je sais pas si tu te rappelles, ouais, il y avait Jean-René aussi, tout à coup il y a eu du vent. Et la grue, il y a un système au troisième tronçon qui fait que ça tourne pour pas que ça, voilà. Que ça casse. Et donc je me suis retrouvée à tourner. Et Solveig était là très inquiète pour Jean-René et moi. Et finalement, on a réussi à convaincre le gars.
Voilà.
Et c'était par les biais normaux.
Ça aurait été impossible.
Ouais.
Et après, la production nous a dit, mais c'est absolument impossible, ouais. Vous auriez dû signer un papier de décharge et tout ça. Et en fait, là, ça s'est passé totalement naturellement.
Ouais, voilà, c'est
et il y a un des gars qui travaillait là, qui a eu un rôle.
Voilà, absolument.
Et après, ils ont réfléchi avec nous comment on pourrait inventer un système pour hisser le matériel en haut de la grue. Et donc, ils sont devenus totalement partie prenante de l'opération.
Alors que c'était vraiment un chantier, c'est un vrai chantier.
C'était compliqué pour eux.
Oui, bien sûr.
Mais tout à coup, je sais pas, avec Solveig, la manière d'en parler, notre enthousiasme à tous, cette espèce de challenge incroyable, cet émerveillement devant la vue, le fait que Solveig habite juste là en bas et que ça ne pouvait être qu'eux, en fait, ils étaient les élus. Et donc, tout à coup, ils étaient prêts à nous aider complètement, quoi. Mais c'est vrai que c'est comme ça que Solveig fabriquait des petits miracles. Et j'ai une photo au pied de la grue où Solveig fait répéter un des ouvriers, là, lui fait un petit test au milieu de la rue, sur le carrefour, je ne sais plus de quoi. Voilà, et on était tous, enfin, c'était très, très joyeux.
Ouais, ouais.
Elle laissait naître les personnages. Et après, avec les personnages, on imaginait une intrigue parce que, par exemple, l'effet aquatique, l'enjeu du départ est totalement absurde, quoi. Enfin, je veux dire. Mais en même temps, plein de gens se sont reconnus dans ce gars qui sait pas comment faire avec cette fille qu'il aime, dont il tombe amoureux, et invente ce stratagème idiot d'aller prendre des cours de natation avec elle, en mentant sur le fait qu'il sache nager, donc il fait semblant de pas savoir nager. Donc, déjà, ça raconte qui il est, ça raconte son rapport à la vie, son rapport aux autres, c'est-à-dire le manque de confiance en soi, où t'es toujours obligé de jouer le rôle de quelqu'un d'autre parce que t'as tellement peur de jouer le tien que tu crois qu'en jouant le rôle de quelqu'un d'autre, tu vas forcément plus séduire. Et puis, patatras. Et donc là, l'intrigue, elle est née de ces deux personnages. Tout simplement. Et en fait, c'est en frottant, comme deux pierres là pour faire du feu, en frottant deux personnages que naissent les histoires. D'ailleurs, moi, quand je commence à travailler sur un film, on commence à développer un personnage, et puis après, on crée une rencontre, et puis on voit s'il y a des étincelles, et l'étincelle provoque un début d'histoire. Il se passe, enfin, je veux dire, à moins de demander l'heure à quelqu'un et de repartir, il peut se passer tout le temps quelque chose. C'est la théorie des vies non vécues, quoi. Toutes ces vies qu'on n'a pas vécues parce que justement, on a juste demandé l'heure, on est parti, mais il y avait plein d'histoires. Donc c'était ce regard-là, et ce goût pour les gens, et ce goût pour les personnages, qui, à mon avis, était la base de son travail, quoi.
Hello, Agathe. You want one?
I'd rather have a hot coffee. Thank you.
Quand on a écrit l'effet aquatique, à la fin, une des dernières scènes, l'héroïne se retrouve dans cette maison où il y a cette vieille femme qui va lui lire les... Enfin, lui faire l'avenir dans une tasse.
What does she want?
She wants your cup.
I finish it?
Et quand on a écrit cette scène, et franchement, les mots... Aucun des mots n'a été changé après. Quand on a écrit cette scène, c'était pour rigoler. C'est-à-dire presque pour se moquer de côté surnaturel. Quand on a tourné cette scène, on s'est aperçu que la scène parle de l'amour, de la recherche de l'amour, de la peur d'aller à la rencontre de l'amour. Et c'était très émouvant. C'est-à-dire que le côté deuxième degré a disparu dans le dispositif de la mise en scène.
Is she a corner?
She's said that she sees a woman there.
Stormur inni henni, þó aðalega í hjartanar.
There's a big storm inside her, especially in her heart.
Hver er þessi unga dama?
This is Agathe.
Það er hún sem ég sé.
It's you that she's seeing there.
Hún er að takast á við eitthvað.
Et quand je me suis retrouvé au montage avec la monteuse pour monter cette scène, eh ben ça parlait de la mort. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait peur de mourir, et qui était au seuil de la mort, Et cette femme lui disait, vas-y, vas-y. Laisse-toi aller parce que ça sera, c'est ce qui sera le moins douloureux, quoi. Et tout d'un coup, ce texte qui était une blague, on se moquait même de ça parce qu'elle se moquait beaucoup de ça. Et ben, tout d'un coup, au tournage, c'est devenu un truc très émouvant parce que Florence l'a vraiment pris au premier degré, et donc elle pleure et tout ça. Et puis il y a quelque chose voilà, on était dans la campagne islandaise et tout ça. Et au montage, c'était flagrant que ça parlait de la mort, quoi. Mais franchement, quand on l'a écrit, même on rigolait, quoi. Donc il y a quelque chose qui est passé. Donc cette noirceur, cette peur totalement légitime de mourir, qui était présente chez elle depuis longtemps, parce que moi je me souviens que la première fois elle m'a annoncé que son cancer est en récidive, elle était chez moi. Et ben, je l'ai prise dans mes bras, moi j'y croyais pas, enfin je dis bon, ça va, voilà. Et puis finalement, ça a toujours été très présent, quoi. Très très présent. Et c'était présent malgré elle dans l'écriture de cette scène. Et à l'écran, quand je vois cette scène à l'écran, je dis, ben oui, ça parle de ça. Ça parle de quelqu'un qui est au seuil de mourir, et la vieille dame lui dit, ben viens, ça va très bien se passer, viens. Voilà.
Dernier jour de tournage de l'effet aquatique.
C'est beau.
Ok, c'est joli ça.
C'est notre fin de journée, notre fin de tournage. Et merci mille fois à tout le monde et surtout à vous qui êtes restés dans cette eau froide.
Bravo!
Oh
ouais.
Solveig, elle aimait beaucoup les rituels et elle aimait beaucoup faire des toasts, faire skål. Et donc, elle faisait très régulièrement des discours. Elle portait un toast à plein de choses. Et à chaque fois qu'on se voyait ou qu'on commençait une journée de tournage ou qu'on finissait une journée de tournage, voilà, il y avait un toast qui était porté à quelqu'un, à quelque chose, à la journée, à ce qu'on avait réussi à faire. Et c'était une manière de nous relier tous ensemble et justement d'exprimer à chaque fois de l'amour. Et bah, c'était extrêmement fort. Et alors le soir, avec Solveig, le petit rituel, c'est... Bon, parce qu'un tournage, c'est fait de plein de frustrations. On s'est mis la barre tous très très haut et on a réussi à voir ça. Mais ça, c'était des victoires, toujours. Et donc, on finissait la journée et on se racontait toutes les victoires qu'on avait réussi à arracher. Et ça, c'était... C'est pas rien.
Scene 38, slate 3, take 1.
Ce dia-là. Détends-toi, c'est un moment pour toi, t'adores être dans l'eau.
Quoi?
Tu adores être dans l'eau, détends-toi.
Non, mais là, je fais des abdos pour être au centre de la baignoire.
Ah.
Je suis pas du tout détendu, là. Peut-être comme ça?
C'est moins bien parce qu'on a les carreaux. L'autre, c'était plus abstrait. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est parfait. Ça tourne, là.
Toujours.
T'entends qu'elles discutent, les filles, là. Ça, c'est bien. Coupé.
On jouait contre le temps, quoi. On jouait contre le temps. Même si moi, j'ai toujours... J'ai jamais cru qu'elle partirait, vraiment, jusqu'à la fin. Mais on jouait contre le temps, donc ça donne beaucoup d'énergie. C'est comme une deadline quand on écrit. Donc elle avait une énorme deadline, dont je me suis mis dans cette deadline. Et du coup, on est arrivé dans une nécessité qui devenait assez belle à la fin, quoi. Enfin, dans ce dernier. Et d'ailleurs, elle le disait. Elle-même, c'est, je pense que le cinéma, la création a repoussé l'échéance, quoi. Ça, c'est clair que, parce que parfois il y avait des gens qui disaient, oui, mais repose-toi et tout. Et elle disait, non, je suis pas là pour me reposer, quoi. Tant que j'ai de l'énergie, allons-y, quoi. Et elle avait plein de choses à raconter et voilà. Et d'ailleurs, on avait déjà, il y a eu d'autres films, il y avait un autre scénario, deux autres scénarios qui étaient prêts derrière et voilà, c'est, pour moi, ça reste une cinéaste en devenir, quoi. Elle a encore plein de choses à dire et à nous dire.
J'ai travaillé avec Solveig sur son dernier scénario.
Agnès de Sacy, scénariste.
Cette histoire a commencé en mai 2013, lorsque j'ai croisé Patrick Sobelman, le producteur de la plupart des films de Solveig, qui m'a dit, dans la cour de la production, Solveig a écrit un texte de 2 pages, et c'est un sujet important, personnel, et on aimerait que tu le lises, on a pensé à toi. J'ai donc ensuite travaillé avec Solveig pendant 9 mois à développer et écrire cette histoire, qui est devenue donc le scénario de Just the Two of Us. Le texte donc s'appelle Le dernier amour. Je voudrais faire un film qui raconte la dernière, point d'interrogation, histoire d'amour que ma mère, Högna, a vécu. Ma mère a aujourd'hui 81 ans. À l'époque où s'est déroulée cette histoire, elle en avait 79. Un jour, ma mère me téléphone. « Solveig, tu vas bien ? Je t'appelle parce que je voulais te dire quelque chose d'important. »« Je t'écoute, maman. Je voulais te dire, j'ai un amoureux. »« Mais c'est formidable, maman. »« Tu trouves ? Mais oui, bien sûr, je trouve ça formidable. » J'avais peur que tu réagisses mal. Ça me rend triste que tu aies pensé ça, maman. Un temps. Oui, je ne sais pas pourquoi je pensais que tu réagirais mal. Tu sais, il a ton âge. Ah oui ? Mais c'est pas un problème. Je trouve ça bien que pour une fois, ça soit dans ce sens. Un silence. Je voulais te dire aussi qu'il est marié et qu'il a 4 enfants. Ces choses-là arrivent. Ce qui m'importe, c'est que tu sois heureuse. Dis-moi, est-ce qu'il te prend dans ses bras ? Est-ce qu'il est doux et tendre avec toi ? Solveig, je dois te dire que nous faisons l'amour et que ça n'a jamais été aussi bien pour moi. Je reste sans voix. Le lendemain, ma mère et moi nous retrouvons dans un café. Elle est un peu en retard, je la regarde franchir la porte d'entrée. Elle est lumineuse comme ces gens qui sont amoureux. Elle est amoureuse. Elle est bien habillée, sobre et chic. Sous son manteau ouvert, elle porte un t-shirt moulant sans soutien-gorge qui révèle sa poitrine belle. Elle s'assoit en face de moi et m'embrasse, un peu gênée. « Maman, tu mets plus de soutien-gorge ?»« Mais si, mais je viens de laver celui que j'aime le plus et il ne sera sec que ce soir, je l'ai mis sur le radiateur. » Je lui pose 1000 questions. « Mais comment tout ça a commencé ? Qui a fait le premier pas ?» Je me demande comment elle, si pudique, timide et angoissée, a pu se laisser aller à un tel abandon. Comment se déshabite-t-on à 79 ans devant un homme qui en a 45 ?
Ah oui, voilà, j'ai une petite anecdote. Oui, parce qu'elle avait fait une scène, d'ailleurs qui n'est plus dans le scénario, je crois, où donc sa mère, qui est un personnage fictif, est chez elle et elle danse à poil, ou je sais pas, enfin bon, voilà. Heureuse, dénudée, elle a fait l'amour, voilà, voilà. Et elle cherchait une chanson. Et donc moi, comme je faisais 2 semaines chez mon père, 2 semaines chez ma mère, bah ça aussi c'était mignon dans notre relation, elle adorait que je vienne en fait. Elle était trop contente quand j'étais là. Moi je mettais la musique à fond. Et à chaque fois elle était trop contente que je vienne, elle me disait « Oh, j'ai acheté des bons steaks, j'ai fait un petit plat, j'ai même changé tes draps, enfin, j'aurais été trop excitée quoi. » Et du coup, donc je mettais de la musique. Donc il y avait cette chanson Just the Two of Us de Bill Withers. Il a dit ah oh, mais j'adore cette chanson. Qu'est-ce que c'est ? Je vais la mettre dans mon film pour cette scène ou blablabla. Et du coup, au final, voilà, ça s'appelle Just the Two of Us. Et... voilà. Mais bon, entre temps, le titre a changé. Mais bon, voilà, c'est parti de là, quoi.
Et souvent, elle me disait, un peu en blague, il faut que toutes les femmes connaissent cette histoire parce qu'il y a toujours de l'espoir, tu vois. On peut tomber amoureux à tous les âges et on peut toujours être aimé, on peut toujours tomber amoureux. N'oublie pas, c'est quelque chose qu'on doit. Et elle avait une sorte, non seulement de combativité, d'extrême concentration. On travaillait assez peu, mais de façon très concentrée. Et cette chose, à partir des bribes de souvenirs, nous avons bâti une fiction.
Patrick Sopelman, producteur.
C'est ça qui me rend dingue, c'est que Solveig était encore en montée, c'est-à-dire que c'était une meilleure, au fur et à mesure une meilleure réalisatrice. Elle a énormément appris de ses tournages précédents et elle devenait... L'effet aquatique est un très bon film. C'est un film qui fait du bien, en fait. Pour le coup, c'est un vrai feel-good. Quand je pense à Solveig aujourd'hui, je pense à un champ de lavande. En fleurs, avec l'odeur, avec les couleurs. Un champ de lavande parce que Solveig avait, disons, deux endroits vraiment à elle. Il y a le passage Étienne Delay, le passage à Bagnolet où elle habite, et qui est le passage qu'on voit dans Haut les Cœurs. Et puis, il y a une très jolie maison dans la Drôme, au milieu des champs de lavande, et qui était un lieu où Solveig adorait venir. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'elle est venue, qu'elle a souhaité faire son dernier voyage, comme on dit. J'aurais bien rajouté quelque chose en islandais, mais je parle pas islandais, je sais. Skål. Skål, Solveig. Ouais. Solveig. Skål, Solveig min. À ta santé, ma Solveig.
Solveig. Soleil. Ne cessera de tourner. Toi, le tournesol et la lavande. L'amour qui fait pleurer et la mort qui fait rire. Fille d'une île et reine d'une ville sans vanité, tu es là, toi. Maison monde, dont la porte est toujours ouverte pour l'ami, pour l'inattendu. Tu as planté des films, remué le peu de terre qu'ont daigné te confier les hautes instances financières du dieu cinéma, pas toujours généreux avec toi. Qu'importe. Des planètes fidèles compagnons poussent d'autres cieux grâce à toi. Queen au cœur haut. Femme vue, tant aimée et pleurée. Back soon. You will be 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 back soon.
Des rêves assez jolis. J'ai rêvé de toi, pour que tu penses à moi.
C'était Solveig Ansbach, place de la fraternité. Poème de fin de Florence Loiret-Caille. Poème islandais de Detta Jonsdottir. Merci à Mathilde Grosjean, Samir Ghezmi, Detta Jonsdottir. Lecture Ástís Ólafsdóttir. Extrait du making-of Solveig tourne l'effet aquatique, réalisé par Jean-Luc Gagé. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Olivier Dupré, Lionel Quentin. Un documentaire de Marianick Bello.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture, une page préparée, enrichie et élaborée avec amour et passion par Pascaline Bonnet et Thibaut Terragnan.